بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous. Aujourd'hui est le dimanche 26 du mois Safar de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 9 août 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre notre lecture de cette risala extrêmement bénéfique de l'imam Ibn al-Qayyim qu'il a adressée à un de ses frères. On s'était arrêté sur ce qu'il a nommé al-mashhad al-thani, mashhad al-sidqi wal-nushi. Donc, cette station de al-sidq, la véracité, wal-nushi, la loyauté et le bon conseil. وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله. Donc, il est question dans ce point qui concerne la véracité et la loyauté dans la salat que le serviteur se consacre totalement avec son cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala durant sa salat et qu'il déploie tous ses efforts pour se diriger et se tourner complètement vers lui. Donc il va se libérer de toute autre chose excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va être entièrement consacré à sa salat. Il ne va pas se tourner vers autre chose que vers Allah subhanahu wa ta'ala durant sa salat. Wa jam'a qalbihi 'alayha wa iqa'aha 'ala ahsani al-wujuh wa akmalaha zahiran wa batinan. Et donc il va se concentrer sur cette salat et l'accomplir de la manière la plus parfaite extérieurement ainsi qu'intérieurement. Vous savez que l'extérieur suit l'intérieur, et quand le cœur est concentré, les membres font preuve de sérénité, de tranquillité, et on ne voit pas les mouvements et les gestes futiles. Ça, c'est parmi les signes de la concentration du cœur durant la salat. Quand le cœur est concentré, il va être constaté une absence de mouvement futile avec l'apparence durant cette salat. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن. En effet, la salat a un aspect extérieur et un aspect intérieur. Salat, n'a pas seulement une dimension apparente, ce que les gens voient. Elle a un fond aussi. Elle a une autre dimension intérieure dans le cœur. Et c'est la plus importante, bien évidemment. Et c'est la base de tout, même. فَظَاهِرُهَا الْأَفْعَالُ الْمُشَاهَدَةُ وَالْأَقْوَالُ الْمَسْمُوعَ. Donc sa dimension extérieure, son aspect extérieur, c'est quoi? Il dit, ça comprend les actes visibles et les paroles audibles. Ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est ce que les gens voient de toi durant ta salat. Ils peuvent voir de toi que tu es concentré, car effectivement, durant la salat, tu ne bouges pas. t'es concentré, yani de l'apparence, on constate une certaine concentration, mais ça n'implique pas forcément qu'il y ait une concentration du cœur également. Mais par contre, les mouvements futiles indiquent forcément une déconcentration du cœur. Et ça, c'est que cette règle, ça s'applique partout. Comme ce qu'on a vu à plusieurs reprises, quand les hommes de science disent que la réforme du cœur implique forcément une réforme de l'apparence. C'est inimaginable de trouver une personne dont le cœur est réformé et dont l'apparence ne l'est pas. Car l'apparence, elle suit le cœur. Par contre, le fait de constater une apparence réformée n'indique pas toujours que il y a une réforme du cœur. N'indique pas toujours ceci. Mais on pense du bien des gens. Mais il faut savoir que la réforme de l'apparence n'indique pas tout le temps la réforme du cœur. Mais la réforme du cœur implique forcément la réforme de l'apparence. D'où l'égarement de cette parole ce propos que tient certaines personnes quand on les blâme sur une mauvaise chose qu'ils ont fait, ils disent mais non, mais la foi c'est dans le cœur. Ça c'est faux. La foi, c'est une vérité avec laquelle on veut une chose qui n'est pas vraie. Certes, la base de la foi c'est dans le cœur. Mais quand le cœur est réformé, forcément l'apparence est réformée. C'est la même chose qu'il a dit ici par rapport à la salat. Wabatinuha, c'est quoi la dimension intérieure de la salat? Il a dit wabatinuha al-khushu'u wal-muraqabatu wa tafrighu al-qalbi lillah wal-iqbalu bi kulliyatihi 'ala Allah fiha bihaythu لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. الله أكبر. Qu'est-ce que c'est difficile ce qu'il a mentionné ici, sauf pour qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. Donc, c'est quoi la dimension intérieure de la salat? C'est quoi l'aspect intérieur de la salat? Il a dit وباطنها الخشوع. C'est al-khushu', la concentration, l'humilité, la dévotion. Al-khushu'. Al-khushu', c'est une adoration du cœur qui se manifeste par l'absence de mouvement dans l'apparence. Et la cause de ce khushu', de cette concentration, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est en lien. Et c'est proportionnel à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comme tout est lié. Tawhid, la connaissance d'Allah, donne la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, quand elle remplit le cœur, ça donne un khushu' dans la salat. Tu sais devant qui tu es dans la salat. Tu ne vas pas faire des choses futiles. Tu ne vas pas jouer avec ta barbe. Ou la t'amuser avec ton chimar. T'es devant le roi des rois. T'es devant le maître suprême. Il te voit. Et t'es devant lui, en face de lui. Dès que tu dis Allahu Akbar. C'est pour ça que Ibn al-Jawzi, il a cette belle parole, il dit « Ne sois pas un menteur dès le début de ta salat ». Car dès le début de ta salat, c'est quoi l'ouverture de la salat? C'est avec quoi on entame la salat? On commence la salat avec takbir. Alors ne sois pas un menteur en disant Allahu Akbar. Tu dis Allah est plus grand que toute chose. Alors que ta réalité, c'est pas ça. Tu penses à autre que lui. Il n'est pas plus grand que toute autre chose. C'est ça ta réalité. Donc il dit, ne sois pas un menteur dès le début de ta salat. Et ça, c'est un travail qui se fait sur plusieurs années. Quand on entend que certains grands imams parmi les salafs ont fait des efforts continus pendant des dizaines et des vingtaines d'années pour arriver à ce khushu' dans la salat, on réalise que ce n'est pas une chose facile, sauf pour qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu facile. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Wa Allah, rien n'est facile que ce que tu as rendu facile. Et c'est toi qui rends ce qui est difficile facile. Donc, l'aspect intérieur de la salat, c'est la concentration, la dévotion, l'humilité, la conscience de la présence divine, al-muraqaba. Allah te surveille pendant ta salat. D'avoir conscience que Allah subhanahu wa ta'ala te voit à ce moment où tu fais la salat. Toujours de donner des paraboles avec les créatures, ça sert aux gens. Car ça leur parle plus en général. Yani, si tu dis à quelqu'un, tu es devant le roi de ton pays. Il t'a reçu dans son palais. Tu es devant lui. Est-ce que tu t'imagines un instant, tu es devant lui, tu es en train de faire comme ça? Vous avez déjà vu ça? Les gens sont concentrés à fond sur ce qui se passe. Il peut recevoir un ordre à n'importe quel moment. Il peut être invité à se déplacer à n'importe quel. Il est concentré, mais une concentration totale sur ce qui se passe. Il peut être appelé. Et ça, c'est vis-à-vis une créature comme toi, qui va faire ses besoins comme toi tu fais tes besoins. Impuissante comme tu l'es, toi. Exactement. Et peut-être que tu es meilleur que elle auprès d'Allah. Et malgré ça, regarde cette impression que ça te donne. Alors, comment dire quand tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de toutes choses, celui qui t'a accordé tous les ni'am dont tu jouis, celles que tu connais et celles que tu ignores. Nas'alullah salam alafi. Sur ça, on termine notre salat, ya ikhwa. Qu'est-ce qu'on dit? Dès qu'on termine la salat, la première chose qu'on dit, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tu demandes à Allah de te pardonner. Car ce que tu viens de faire pour lui ne convient pas du tout et ne peut jamais correspondre à ce qu'il mérite de toi. Ça ne peut jamais correspondre à ce que mérite Allah de toi. Même si tu es le meilleur des prophètes, le meilleur des messagers. C'est pour ça que tu termines directement la première chose que tu dis, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Trois fois. C'est la sunna de notre prophète, alayhi salam. Et c'est pour ça le sirfar, comme dit Cheikh l'Islam Taymiyyah, dans la sunna, il est mentionné souvent, si ce n'est pas tout le temps, après les adorations. Après les grandes adorations, il t'est légiféré de faire le sirfar. Et les exemples sont nombreux. Taïb. Donc, d'avoir conscience que Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibuk, te surveille, te voit. Et aussi le fait de vider son cœur de toute pensée et de se tourner pleinement vers Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. C'est ça l'aspect intérieur de la salat. Il poursuit en disant, de sorte que le cœur ne se détourne pas vers autre que lui, que Allah subhanahu wa ta'ala. Du début de la salat jusqu'à la fin de la salat. Ça, c'est la salat qui nous a été prescrite. Lakin subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous une salat avec un minimum de concentration durant cette salat. Imaginez si la concentration, le khushu' était une condition de validité de la salat et que tu devais avoir ce khushu' du début jusqu'à la fin de la salat. Si la salat n'était acceptée qu'avec cette condition. Lakin,
Les ulama disent qu'il faut un minimum de khushu pour valider la salat. Mais ce qu'il faut savoir, la récompense de la salat est proportionnelle à ta concentration durant la salat. Tu auras la récompense juste et seulement des parties de ta salat dans lesquelles tu étais concentré. Tu auras la récompense seulement de ces moments dans lesquels tu étais concentré dans la salat. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, la personne, elle termine la salat et elle ne prend que un dixième de la récompense. C'est la proportion dans laquelle il était concentré. Si la validité n'est pas dépendante de la concentration, sachez que la récompense, elle est dépendante de la concentration. Parmi les choses qui aident à avoir ce khushu dans la salat, premièrement, c'est la science de tawhid. Pour ça, il ne faut jamais penser que tu es arrivé à un degré dans la science de tawhid où tu n'as plus besoin de l'étudier. On a toujours besoin d'étudier tawhid, de le méditer, de le mettre en pratique et de le transmettre. On a toujours besoin de ça, jusqu'à quitter ce bas monde. Il ne peut penser pouvoir se passer de cette science et, avoir atteint un degré qui l'indispense de l'étudier qu'un ignorant de ce que c'est la réalité de tawhid. Parmi ce qui aide aussi, c'est de se rappeler la mort. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait des fois de dire aux compagnons avant la salat, salli salat amwaddi'. Fais une salat d'adieu, comme si c'était ta dernière salat. Et subhanallah, le jour où tu te rappelles ce hadith, avant de commencer une salat, en général, tu seras concentré dans cette salat. Imagine, c'est ta dernière salat. Et c'est pour ça que ça l'heure pour décrire l'excellence dans l'adoration de certains tabi'in. Ils ont dit, comme Ada Suleyman ibn Mu'tamir ou d'autres, ils ont dit, si on lui dit que la mort arrivera demain, il ne pourra rien rajouter comme adoration. Il est déjà au summum de ce qu'il peut faire. Tout son temps est rempli avec les adorations. Il ne peut pas faire plus. Imagine-toi si on te dit, demain tu vas mourir. Le nombre d'adorations que tu pourras faire. Tu termines déjà aujourd'hui le Coran, et tu ne dors pas du tout, il n'y a plus à manger, ni boire, ni... Ton fils il vient te voir, il dit, va faire autre chose, j'ai pas le temps. Allah m'sa. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, et notre manquement et négligence. Taïb. Ensuite il a dit, وَالْإِقْبَالُ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَيْهَا بحيث لا يلتف القلب غيره. قال فهذا بمنزلة الروح لها. Ce qu'il vient de décrire à l'instant, cet aspect intérieur de la salat, il a dit, cette dimension intérieure de la salat, c'est comme l'âme pour le corps. Alors, c'est comme l'âme pour le corps. C'est l'âme de ta salat. C'est pour ça qu'ils disent le khushu, ruh salat. C'est pas un hadith, lakin une parole des hommes de science. Ils disent le khushu, ruh salat. Le khushu, c'est l'âme de la salat. Et bien évidemment, un corps sans âme, c'est un corps qui n'a pas de valeur. C'est un cadavre. Pareil, une salat sans khushu, c'est abath. Mais c'est des efforts qui doivent continuer jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ses portes devant son serviteur. Et celui qui continue à toquer en finira par lui ouvrir la porte, comme dit l'imam Al-Qayyim. Yani, ne désespère jamais. Ça fait partie de la connaissance d'Allah, c'est que tu ne désespères jamais d'atteindre ces degrés. Lakin, se les rappeler, se rappeler ces sens-là, c'est très important. Malheureusement, ce genre d'assises ont disparu à notre époque. Illa man rahim Allah. C'était des assises très répandues chez les salafs. Ça, vous lisez, le Fudayl ibn Iyad, il rencontrait Abdullah ibn al-Mubarak et il parlait des adorations du cœur. À deux. Ça, c'est des assises qui n'existent presque plus à notre époque, à ma connaissance. Où deux frères, ou là trois, vont s'asseoir et vont parler du cœur. Yani, au mieux, nous, quand on parle de religion, c'est les choses qui concernent l'apparence. Et c'est une bonne chose. Là qu'il n'y a plus important. C'est le cœur, mes frères. C'est pour ça que vous entendez tout ce que vous entendez aujourd'hui, même dans la da'wa salafie. Entre des gens qui se disent salafiyin, mais de leurs écrits et de leurs audios, presque vous voyez la maladie de leur cœur. La haine qu'ils puissent avoir vers les hommes de science, le manque de adab. Un cœur sain, forcément, ça donne un bon comportement. Un adab avec l'ulama et avec l'ilm. Un respect. Une humilité. Une modestie. Et déjà, si avec l'aql, déjà, tu sais où est-ce que t'es. Tu reconnais ta place rien qu'avec l'aql. Si t'es un aql. Alors, que dire de celui qui a la science? Il est censé, normalement, être sur les pas de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et regardez, pourquoi on étudie de la sira? Pourquoi on voit le comportement de Nabi, alayhi salatu wassalam? C'est pour remplir notre temps, ou là, pour s'occuper, ou là. C'est pour le prendre comme exemple qu'Allah nous a ordonné, comme Allah nous l'a ordonné dans le Coran. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. Un bel exemple. Et le fait d'avoir des manquements, ça ne doit pas nous pousser au désespoir. Lakin, c'est un combat perpétuel et c'est des efforts constants jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'issue et ouvre la porte de ses faveurs et de ses grâces devant toi. والأفعال بمنزلة البدن. Dit que les actes extérieurs, c'est comme l'exemple du corps. Et là, est-ce qu'il a cité par rapport à l'intérieur, c'est comme l'âme. فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه. Donc ces actes qui sont comparables au corps, si ils sont sans âme, sans l'aspect intérieur, ça devient comme un corps inanimé, comme un cadavre. Et ici, on se limite à l'apparence et on ne travaille pas à l'intérieur, ça devient comme un corps inanimé. أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل هذا؟ Le serviteur n'a-t-il donc pas honte? Le serviteur n'a-t-il pas donc honte de se présenter devant son maître dans un tel état? Et de faire pour lui et de lui offrir ce cadavre, ce corps inanimé. Et cet acte d'adoration dans lequel il est présent avec l'apparence seulement, et dont le cœur est ailleurs, le cœur est absent. ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. C'est pour ça cette salat qui est un corps sans âme, sera enroulé comme un vêtement usé, puis jeté au visage de celui qui l'a accompli. Elle sera enroulée comme un vêtement usé et lui sera jeté sur le visage. En lui disant, cette salat, en disant à celui qui l'a accompli, qu'Allah te perde comme tu m'as perdu. Qu'Allah t'abandonne comme tu m'as abandonné et négligé. Had le dernier sens, il est rapporté dans certains hadiths, mais à ma connaissance, ils sont faibles. Là, d'une manière générale, ça c'est des rappels pour nous tous. Ça c'est un rappel. Il y a quelqu'un qui présente à Allah subhanahu wa ta'ala celui qu'il aime le plus. Et selon lui, bien évidemment, c'est ce qu'il prétend. Il lui présente had l'offrande comparée à un cadavre et à un corps inanimé. Et ensuite, il dit وَالصَّلَاةُ الَّتِي كَمُلَ ظَاهِرُهَا وَبَاطِنُهَا تَصْعَدُ وَلَهَا نُورٌ وَبُرْهَانٌ. Contrairement à la salat, dont l'extérieur et l'intérieur sont accomplis avec perfection, et avec bonté, et avec bienfaisance, et avec concentration et khushu', cette dernière monte entourée, monte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est yas'adu al-kalim al-tayyib. Les adorations pieuses et acceptables, les œuvres pieuses et acceptables qui réunissent la sincérité et la conformité à la sunna montent vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah l'a dit dans le Coran. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Il élève les œuvres pieuses. Amma les autres, il les élève pas. Ça sera rejeté sur le visage de celui qui les a accomplis. Donc, il dit contrairement et à l'inverse de cette deuxième salat, qui est accomplie avec perfection, elle monte entourée de lumière et d'une preuve éclatante, al-burhan. Elle monte vers Allah, entourée de lumière. Car c'est une adoration aimée par Allah. C'est ça le salat qu'Allah nous a ordonné. C'est pas on vient machinalement, ça devient une routine, comme si on faisait du sport. Des gestes sans cœur. Elle monte vers Allah subhanahu wa ta'ala, entourée de lumière et de preuves éclatantes, semblable à la lumière du soleil. Kanuri shamsi. Yani entourée d'une lumière comme la lumière du soleil. حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني. Jusqu'à ce qu'elle soit présentée à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il agrée et qu'il accepte. Et elle dit alors cette salat à celui qui l'a accomplie, elle lui dit qu'Allah te préserve comme tu m'as préservé. Voilà la salat, ya ikhwan. C'est pour ça, il ne faut pas s'étonner que le Nabi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été interrogé, quelles sont les adorations les plus aimées par Allah ? Il a dit, as-salatu ala waqtiha. Ensuite, il a dit, al-jihadu fi sabilillah. Comment ça se fait que le Nabi, alayhi sallam, il va mentionner dans les adorations les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, en premier, il va mentionner la salat dans son temps, c'est-à-dire la salat en début de son temps. Et après seulement sera mentionné le combat dans le sentier d'Allah, de l'homme sincère qui cherche à ce que la parole d'Allah soit la plus haute et la plus élevée. et qui expose son argent et ses biens et sa personne au danger. Comment salat, elle est supérieure à ce grand acte d'adoration, extrêmement méritoire en islam. La raison, tout simplement, comme les savants l'expliquent, comme Ibn Hajar et d'autres, dans Fath al-Bari, c'est que la salat, c'est un jihad de toute une vie. C'est un effort de toute une vie. Contrairement à ce combat, ça peut être un effort de quelques instants. La personne est enthousiasmée par ce grand acte d'adoration, elle prend connaissance des textes et du mérite, et elle s'enthousiasme, et puis elle participe, et elle rencontre son Seigneur en ayant obtenu le degré du martyr. Ça peut être l'effort de quelques instants. Lakin salat, même si on te fait le même travail. Regardez, après ce qu'on a vu, moi, le premier, je pense que je vais être meilleur dans ma prochaine salat. Lakin, ça va continuer combien de temps? Rapidement, on va tomber à nouveau dans le ghafla, l'insouciance. C'est pour ça, Cheikh Ibn Baz, il disait, c'est un effort de toute une vie. C'est un jihad d'une vie. Toute ta vie. 5 salawats par jour. Tu dois faire attention d'être à l'heure, d'arriver avant takbirat l'ihram, de faire rawatib avant, et d'être concentré durant la salat, et de faire l'adhkar après, et de préserver cette adoration jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et la retrouver dans le livre de tes bonnes actions. Qu'Allah nous le facilite à tous. Est-ce que vous voulez qu'on arrête ici?
Encore un quart d'heure.
Donc on va lire le troisième mashhad, le mashhad al-thalif, mashhad al-mutaba'ati wal-iqtida' afan. Mashhad al-mutaba'ati wal-iqtida'. Donc, la troisième station durant la salat, c'est la station du suivi du prophète alayhi salat wa salam, et de prendre le prophète alayhi salat comme exemple et modèle dans notre salat. Wa huwa an yahrisa kull al-hirs ala al-iqtida'i fi salatihi bin nabi sallallahu alayhi wasallam. Donc il s'agit de veiller rigoureusement à prendre le prophète alayhi salatu wassalam pour modèle et exemple dans toute notre salat, en la faisant comme il la faisait. Yusalli kama kana yusalli wa yu'ridu amma ahdatha an-nas fi as-salat, et qu'il s'écarte de ce que les gens ont inventé, ont innové dans la salat, les bid'ah, que ce soit des bid'ah qu'ils ont inventé dans la salat. Par exemple, ils prononcent l'intention à haute voix. Il dit bismillah, c'est pas légiféré de dire bismillah avant de commencer la salat. Il dit bismillah nawaitu salat adh-dhuhri, et après il y en a yani yatafannanun, qui excelle dans l'innovation. Bismillah nawaitu salat adh-dhuhri fi masjidi, il va citer le quartier. J'ai l'intention d'accomplir salat adh-dhuhr dans le quartier des touches, derrière l'imam Jilali. Il cite le nom de l'imam, derrière l'imam Antel, en visant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Et ainsi de suite. Tout ça, c'est des innovations. L'intention, c'est dans le cœur. Tu mets l'intention de faire salat ad-dhuhr, dans le cœur. Et on ne la prononce pas, la prononcer est une innovation. Également, quand il se lève de rukou', allez, je vais citer quelques innovations, desquelles je me rappelle maintenant. Quand il se lève de rukou', l'imam dit, Sami Allahu liman hamida, lui dit, Rabbana wa lakal hamdu wa shukr. Ça, c'est pas rapporté. Les iqama, ils disent, Aqamaha Allahu wa adama. Ça, ce n'est pas rapporté authentiquement non plus. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça que vise l'imam Ibn al-Qayyim. C'est que tu t'écartes de tout ce que les gens ont innové dans la salat. Min az-ziyadati wa an-nuqsan. Que ce soit qu'il s'agisse d'ajouts ou de diminutions. Il y en a des fois, il rajoute des choses, des fois, il diminue des choses. Toi, tu t'attaches à suivre le prophète alayhi sallam rigoureusement dans ta salat.
والأوضاع التي لم تنقل عن رسول الله صلى الله لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه.
Également, tu dois délaisser toutes les postures dont rien n'a été rapporté de Nabi عليه الصلاة والسلام ni de ses compagnons, ni d'aucun de ses compagnons.
ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه.
Et il ne convient pas non plus de s'arrêter aux avis de ceux qui cherchent soi-disant la facilité. Soi-disant la facilité, car ce n'est pas ça la facilité en réalité. Celui qui te dit d'acheter une maison avec riba pour te faciliter, car comme ça tu vas arrêter de payer des loyers dans le vent et tu vas finir par posséder un bien pour assurer l'avenir de tes enfants. Celui-là, il prétend te faciliter. Mais en réalité, il te complique les affaires. Il te rend la vie extrêmement difficile. Ad-dunya avant l'akhira. L'akhira, n'en parlons pas. L'anna, bien évidemment, il te fait tomber dans ce que Allah a interdit. Donc, tu vas rendre des comptes. Et ne crois pas parce que tu as entendu quelqu'un qui t'a dit que c'est autorisé, que tu ne seras pas interrogé auprès d'Allah. Imagine quelqu'un, il dit, Anna, je crois en quelque chose qui fait partie de shirk ou en un blasphème grave vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les chrétiens qui lui attribuent un fils. Est-ce que vous pensez que celui-là sera excusé auprès d'Allah juste parce qu'il a entendu les gens dire ça et il l'a cru, il les a suivis? Non, 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 c'est pas comme ça. Donc, il te facilite, il te dit te faciliter, mais en réalité, il te complique les tâches. Il y en a, si vous demandez à tous ceux qui sont tombés dans le riba, vous allez voir que leur vie s'est transformée en un calvaire. كما الله دين القرآن يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Il n'y aura plus de baraka dans tous ses biens jusqu'à ce qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de tout ce qu'il attend auprès d'Allah. Donc ceux qui prétendent chercher la facilité pour les gens et qui se contentent durant la salade du strict minimum qu'ils considèrent comme obligatoire et validant ainsi la salat. Donc il ne doit pas suivre ces avis-là. Imaginez si vous vous limitez dans votre salat à faire les piliers et les obligations et vous délaissez toutes les sunan. Votre salat ne va ressembler à rien. C'est pour ça qu'il a dit ensuite
وَيَكُونُ غَيْرُهُمْ قَدْ نَازَعَهُمْ فِي ذَلِكَ وَأَوْجَبُوا مَا أَسْقَطُهُ.
Et ça, c'est dans le cas où ce qu'ils appellent à délaisser dans la salat, c'est des choses qui sont considérées à l'unanimité comme des sunan. Alors que dire s'ils appellent les gens à délaisser des choses en voulant leur faciliter, sous prétexte que ce sont des choses surrogatoires et recommandées seulement, alors que d'autres hommes de science voient qu'elles sont obligatoires? Donc là, c'est encore plus grave. C'est pour ça qu'il a dit, alors que même d'autres savants ont contesté cet avis et rendu obligatoire ce qu'ils ont délaissé et ce qu'ils appellent les gens à délaisser.
ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك.
Et peut-être que les hadiths authentiques et la sunna prophétique soutiennent cette obligation sans que ces derniers n'y aient prête attention. Pourquoi ? Quel est leur prétexte ? Ils disent « Nahnu muqalliduna li madhhabi fulan » Ils disent « Nous suivons le madhhab, l'école juridique d'un tel. On suit l'école de l'imam Malik, on suit l'école de l'imam Shafi, on suit l'école de l'imam Ahmad, et donc dans notre madhhab, ce n'est pas obligatoire, donc on ne fait pas. » Alors que peut-être il y a des hadiths authentiques, explicites, qui indiquent que cet acte ou cette parole est obligatoire dans la salat.
وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عند الله.
Et ceci ne sera jamais une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci ne sauvera pas cette personne devant Allah subhanahu wa ta'ala et ne constituera pas une excuse pour quiconque qui se détourne de la sunna dont il a eu connaissance.
فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده ولم يأمر باتباع غيره.
Car Allah سبحانه وتعالى il a ordonné d'obéir à son messager et de le suivre lui seul. Et il n'a pas ordonné de suivre un autre que lui. Allah n'a pas ordonné de suivre l'imam Malik ou l'imam Ahmad. L'imam Malik et l'imam Ahmad, ils sont censés indiquer la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Lakin, s'ils ont un avis contraire à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, tu dois pas les suivre dans cet avis. Comme eux te l'ont dit. إِذَا خَالَفَ قَوْلِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْرِبُوا بِقَوْلِ عُرْضَ الْحَائِطِ. Comme ça, il dit l'imam Malik.
Si mon avis est contraire à la parole du prophète, jetez mon avis contre le mur.
Et tous, ils ont dit comme ça, avec des citations différentes. Mais ça indique le même sens pour eux tous.
On va terminer par ça. Il a dit, وَإِنَّمَا يُطَاعُ غَيْرُهُ إِذَا أَمَرَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكل احد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فماخوذ من قوله ومتروك.
Alors qu'on doit obéir à autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la mesure où il ordonne ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, car toute personne en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ses propos, parmi ses propos, il y en a qui seront acceptés, il y en a qui seront rejetés. Ils seront acceptés car ils sont en conformité avec les paroles du prophète. Ils seront rejetés parce qu'ils ne sont pas en conformité avec les paroles du prophète. Lakin, comme vous savez, les grands imams, ils ne cherchent jamais à aller à l'encontre des enseignements prophétiques. Lakin, des fois, ils peuvent ne pas avoir connaissance de ces textes et donner un avis de leur propre effort. Ils ont des excuses que l'imam Taymiyyah a citées dans son livre, Raf'ul Malam. Lakin, notre devoir, c'est de suivre la sunna, de suivre le Nabi alayhi salam. C'est à son sujet que nous serons interrogés. Tu ne seras pas interrogé dans ta tombe au sujet de ton suivi de l'imam Malik, malgré que c'est un des plus grands imams de notre communauté. لكن تسرقا انترجع عن سجد.
نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ندموض الله سبحانه وتعالى دون ذكر دي لسيونس بنفيك وبروفيتابل et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous maintenir sur la voie de la vérité jusqu'à le rencontrer et de nous préserver de toute forme de déviance et d'égarement après avoir pris connaissance de la vérité sur laquelle était notre prophète bien-aimé, ainsi que ses nobles compagnons, qu'Allah les agrée tous. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.